Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller, chapitre 4. Léonce a mal dormi. Les patous ont aboyé toute la nuit. Probablement le renard. Le loup n'est pas encore descendu si bas. Comme il s'agit de la première nuit en alpage, il faut une certaine acclimatation avant que chacun ait pris ses marques. Le berger a quand même décidé de revoir l'installation des parcs et le positionnement des filets pour la nuit prochaine. Le loup est un animal malin et il pourrait avoir testé le dispositif avant de procéder à une attaque en règle du troupeau. La vigilance et la prudence sont de mise. Le soleil brille déjà sur les cimes, alors qu'une mer de nuages recouvre la vallée. C'est merveilleux de voir le bleu des cieux se refléter dans le lac gelé, et juste en dessous, un océan cotonneux qui marque la frontière entre deux mondes. Il voit bien les soucis qui s'accumulent au-dessous de ce couvercle blanc. Dans le chaudron de la civilisation se trouvent tous les ingrédients pour rendre le mets insipide. Il faut une virtuosité exceptionnelle pour améliorer la recette et en sortir une tranche d'amour accompagnée d'un zeste de bonheur. Il aime beaucoup les quelques instants du matin lorsque la nature s'éveille. Les choucas prennent leur envol. Les marmottes s'aventurent hors de leur tanière. Il prend son petit déjeuner en humant l'air du matin. Les effluves matinaux sont importants pour lui. Il est capable d'identifier les odeurs qui lui permettent de prévoir le temps qu'il va faire. Il se trompe rarement lorsqu'il vous dit « Ce matin, l'herbe sent l'orage. La brise vient de la combe. Il pleuvra cet après-midi. » C'est une divination qui rendrait jaloux le meilleur sorcier africain. Après des années de pratique montagnarde, certains approchent de cette vérité, mais peu l'atteignent. Le troupeau commence à s'agiter. La faim tenaille les mères qui n'ont plus de lait à offrir à leur progéniture. En quelques minutes, le silence de la montagne est submergé par les bêlements de plus en plus forts. Il enfile sa parka, prend ses jumelles, son bâton et son sac à dos. Il met en place les collets pour canaliser le flot qui souhaite se précipiter sur le sentier à la conquête de l'herbe promise. Une ouverture sur 4 mètres et le troupeau s'ébranle. Piribi, comme à l'accoutumée, s'est mis à côté de son maître. Son museau touche le genou de Léonce, attendant que ce dernier le gratte entre les cornes. Il adore cette preuve d'affection et la réclame tous les matins. Le reste de la journée, il se contente d'être proche du berger. Le deuxième jour commence enfin, et Léonce sourit pour la première fois. Il a laissé le troupeau sur la droite. Les patous montent la garde. Il a regardé avec ses jumelles le sentier qui descend sur la vallée. Personne à l'horizon. Alors il se décide à aller explorer la combe du Bossu. Il espère voir les chamois. En cette saison, ils ne sont pas trop sauvages. Plus tard, avec les randonneurs, ils monteront haut dans les éboulis. La combe du Bossu est un endroit escarpé. Un torrent coule en son milieu. Le haut ressemble au chaos. Les rochers forment un amas impressionnant. Des roches pesant des dizaines de tonnes, posées en équilibre depuis des temps immémoriaux. Au-dessous se trouve un pierrier. Les cailloux sont de taille plus modeste. Ce sont de gros galets. Le bas de cette dépression se termine par un replat où l'herbe est grasse car le torrent s'étale souvent et le soleil y brille plus que sur le reste de la faille. Une légende que se racontent les gens du village prétend qu'un berger était monté avec ses bêtes jusqu'à cet endroit. Il faisait très chaud et notre homme avait laissé sa compagne dans la vallée pour plusieurs semaines. Il eut un sentiment prémonitoire et abandonna son troupeau pour redescendre au village où il arriva le soir. Trouvant sa femme dans les bras d'un autre homme, il tua les deux amants et repartit dans la montagne. Les gendarmes se lancèrent à sa recherche, et lorsqu'ils arrivèrent à la combe, ils rencontrèrent un vieux bossu, mais pas de berger ni de brebis. Nul ne sut s'il était parti ailleurs ou si le bossu, c'était lui. Les gendarmes revinrent dans la vallée, et le dossier fut refermé. Jamais personne ne revit le bossu. C'était devenu une légende. Demain, c'est l'été. Les sentiers vont se remplir de randonneurs. des citadins à la conquête de l'exploit. Ils en parleront toute l'année, c'est leur Everest. Ils ramèneront des photos, et encore des photos, et toujours des photos. Avec l'arrivée de l'ère numérique, les images sont légion. Léons les appelle les voleurs de saison. Ils n'aiment pas beaucoup cette faune qui n'a que les mots bio et écologie dans la bouche, mais a effacé de son dictionnaire les mots respect et humilité. Le torrent n'est qu'un filet d'eau cette année. Le berger longe les grosses touffes qui délimitent les berges. Il sait qu'avec le vent qui vient de face, il y a quelque chance d'approcher les chamois de très près. Il s'y prépare depuis toujours. C'est son rituel dès le début de l'estive. Il rend une visite aux occupants des lieux. Dans quelques jours, ils auront remonté de plusieurs centaines de mètres, fuyant les voleurs de saison. Léonce avance sans bruit, le pas léger. Il se prépare à la rencontre. Là, sur des rochers escarpés, il y a un couple de chamois. Fière allure, il scrute les alentours. Le vent léger souffle en direction du berger, lui permettant de mieux les approcher. Il les regarde. C'est un moment merveilleux pour cet amoureux de la nature. C'est à se demander comment ils font pour tenir en équilibre sur des pentes aussi abruptes. C'est un défi permanent aux lois de la gravité. Voir un vieux solitaire sauter de roche en roche est époustouflant. Parfois, cela provoque des éboulis, mais l'agilité et la rapidité permettent à ces animaux des prouesses que peu d'autres espèces peuvent réaliser. La nécessité de se fondre dans un milieu hostile a mis à jour des ressources insoupçonnées. Pour échapper aux prédateurs, il faut aller dans des endroits inaccessibles. L'œil et la narine aux aguets. Il domine et scrute les alentours. Il s'est accroupi, abrité par un tumulus. Il peut les contempler pendant des heures. Avec ses jumelles, il apprécie chaque détail de la fourrure. Il est capable de retrouver le même animal plusieurs fois dans la saison. C'est un plaisir dont il ne se passerait pour rien au monde. Seul dans cette combe chaotique, il est en osmose avec la nature. Il jouit de ce que lui donne la vie aujourd'hui. Il entend les chiens aboyer. Il faut aller voir. Il a tout l'été pour approcher le chamois. Il ne faudrait pas que des randonneurs imprudents s'aventurent au beau milieu des patous. Ce ne serait pas très agréable pour ces estivants. Aussi silencieusement qu'il est arrivé, il bat en retraite. Là-haut, les chamois n'ont pas bougé. Parvenu à l'extrémité de la combe, il pointe ses jumelles en direction du troupeau et de la vallée. Les bêtes pâturent normalement, mais les chiens ont bien repéré des promeneurs. Sur le sentier, dans la partie la plus pentue, quatre marcheurs évoluent. Il a vite fait de détecter la catégorie à laquelle appartiennent ces gens. En l'occurrence, il a inventorié leurs équipements. Aucun doute pour lui. Il s'agit de spécialistes de la marche en montagne. Ils sauront éviter les patous. D'ailleurs, juste à droite de Biribi, un sentier part en direction d'une autre vallée. Et c'est ce chemin que prennent les quatre randonneurs. Les chamois seront tranquilles pour l'instant. En ce 21 juin, ce sont les jours les plus longs de l'année. C'est le solstice d'été, disent certains. La Saint-Jean, diront d'autres. Il est de tradition au village de faire un grand feu de joie et de sauter au-dessus des braises une bonne partie de la nuit. Aujourd'hui, la pluie est venue assombrir la montagne. Une averse d'été, lourde et violente, qui succède à la précédente. Il y a plusieurs heures que des trombes d'eau s'abattent sur les versants. Ils discernent le bruit sourd des rochers que le torrent de la combe charrie. Il faut voir le troupeau sous l'orage. Les bêtes s'agglutinent les unes contre les autres pour offrir le moins de surface possible aux éléments. Dès qu'une éclaircie se montre, les brebis paissent. Il a mis son anorak et s'abrite sous l'avancée d'une roche. Le tonnerre qui gronde se trouve amplifié par l'écho. Le berger sait que cette eau est la bienvenue. Les sources débitent juste un minuscule filet et la sécheresse s'annonce. Le déficit de pluviométrie est important cette année. et ce n'est pas un orage de ce type qui va solutionner le problème. Tout au plus, cela permettra à l'alpage de reverdir et de nourrir plus longtemps le troupeau. Le temps du jour facilite l'isolement. Personne ne passera par là aujourd'hui. Il scrute le ciel, couleur d'apocalypse. Au-dessus de lui, les sommets sont cernés par de gros nuages noirs. Des éclairs illuminent le tableau. C'est comme si l'on mettait de la lumière au milieu d'un tas de charbon. Et puis ces rochers qui roulent dans le torrent. Les bêtes n'ont pas bougé depuis un long moment. Seul Biribi a quitté le troupeau pour se mettre à l'abri à côté de son maître. C'est un bouc malin, il sait tirer parti d'une situation. Les collets n'ont pas osé le ramener dans le droit chemin. Les chiens savent qu'il a un statut à part. Il est peu probable que les feux de Saint-Jean puissent se dérouler normalement. Léonce prononce un verdict sans appel. L'orage s'est installé pour plusieurs heures. Alors, sous des trombes d'eau, le feu ressemblerait à un pétard mouillé. Heureusement, il y a des bûches à l'abri sous un auvent de la cabane. Le berger fera un feu pour assainir l'atmosphère et sécher sa carcasse. Il fera la fête seul avec Mélodie, sa guitare compagne, et gratteront la note de concert pour accueillir Sa Majesté l'été. Grâce aux averses, Léonce gagnera quelques jours. Il pourra retarder la montée à la deuxième cabane. C'est une bonne nouvelle, car une dizaine de brebis ont mis bas ici. Ce sont des retardataires, mais ce sera mieux d'avoir des agneaux plus costauds.